Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue à En toute bonne foi. Ce dimanche, j'ai la très grande joie et l'honneur de recevoir le père Yannick Lallemand. Bonjour mon père.
Madame, bonjour.
Merci de nous offrir un peu de votre temps. Votre livre « Padre, mémoire d'un aumônier militaire » que vous avez écrit avec Frédéric Pons a été édité chez Taillandier. Et vous me disiez l'autre jour, lorsque nous préparions cette émission, que vous aviez la joie de savoir qu'il allait être édité au livre de poche, ce qui prouve qu'il a été très bien vendu. Alors mon père,
très bien. Oui.
C'est très difficile de résumer tout ce que vous avez fait. J'invite nos auditeurs à lire votre livre et je vais donc résumer. On peut dire que vous êtes prêtre de terrain, pasteur selon le cœur de Dieu auprès de vos hommes. Vous avez été chasseur alpin, parachutiste, légionnaire. Vous avez consacré votre vie à accompagner les soldats dans les moments les plus extrêmes et vous êtes toujours au plus près d'eux, me disiez-vous, car vous allez souvent les voir dans leur maison de retraite de Puy-Loubier et d'Auriol. Alors mon père, pour vous la droiture, je sais et j'ai lu que c'était important, rester droit, marcher droit, ainsi commence le prologue de votre livre. Il résume dès le début l'homme que vous êtes, le prêtre que vous êtes. Vous me disiez tout ce que vous faites encore mon père, vous ne manquez pas de force et l'amour que vous portez à vos hommes est très fort. C'est en fait, ce sont vos enfants. Est-ce qu'on peut dire ça?
Il y a plusieurs expressions dans mon livre, mes enfants, mes gamins, mes petits, voilà, parce que je pourrais être leur père, hein, vous savez, avec ceux de Beyrouth, là, tous ces jeunes que j'ai enterrés, là, 74 parachutistes en 4 mois.
Oui, eh bien, nous en parlerons un petit peu plus tard de ces épreuves en fait, oui. Que vous avez vécues. Vous précisez justement, vous parlez de ceux que vous avez enterrés, vous précisez dans votre livre que les vivants ont été guidés par les ancêtres dans votre famille. Peut-on dire que les moments les plus forts de votre vie, donc la mort de votre frère Guy en Algérie, tout ce qui allait avec Olvézi, le Tchad, le Drakkar, et même ce que vous aviez vécu, on en parlera à la fin de l'émission, lors de la fête de Cameroun en avril 2023, montre votre fidélité aux valeurs reçues de votre famille.
Mais depuis ma naissance, je sais que le métier militaire fait partie de notre famille, puisque mon père a été prisonnier pendant 5 ans en Autriche. Et il en est ressorti après 5 ans de captivité très marquée, laissant une épouse et 5 petits pendant la guerre, pendant 5 années.
Oui.
Donc, une situation extrêmement difficile pour un père de famille qui se trouve à des milliers de kilomètres de sa propre famille. Et avec il n'y avait pas tous les moyens pour communiquer entre époux à cette époque.
Oui.
Et puis surtout quand on est prisonnier. Donc je suis né dans ce milieu militaire et l'armée a toujours été très importante parce que la France a besoin d'être défendue. Voilà.
Oui.
Et donc l'armée... Alors on me dit souvent, ah mais entre l'évangile, tu ne tueras pas, et l'armée, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est détonnant dans votre vie? Mais moi, j'ai toujours été l'homme de la paix. Et puis, quand il y a eu Colvézi, moi, j'ai sauté en parachute sans arme.
Oui, vous le précisez, oui, dans votre livre. Je pensais, moi, que vous alliez partir avec une arme et vous précisez que non, vous n'en portez pas.
Moi, j'avais toujours dit que s'il fallait faire une opération quelque part, moi, je comptais sur mes hommes et sur le ciel, sur le bon Dieu. Donc, moi, j'avais beaucoup de confiance. Et avec ces hommes que je voyais chaque jour s'entraîner et d'un haut niveau. Et c'est pour cela que moi, j'étais assez à l'aise avec eux parce qu'ils me donnaient de bonnes leçons de m'entraîner moi aussi pour être à leur hauteur sur le plan physique, mais aussi pour accomplir la mission qui m'était confiée par l'évêque aux armées, par l'Église, c'est-à-dire annoncer Jésus-Christ, que ma vie de petit aumônier tout simple, eh bien, puisse permettre aux uns et aux autres de se dire, mais quel est le maître, le patron de cet aumônier qui partage tout avec nous, qui reste simple, disponible, mais un homme de prière et de foi.
Oui.
Voilà. Et puis l'aumônier ne veut pas être un tiède parmi ses soldats. Vous avez dit que j'étais avec les chasseurs alpins, c'est sûr, des hommes de haut niveau. On l'a vu encore récemment avec cet adjudant-chef qui vient d'être tué.
Oui.
Et puis les parachutistes, bon, j'étais toujours avec les jeunes quand ils se faisaient breveter. Moi, j'étais dans l'avion parce que je sautais avec eux. L'aumônier reste, vu son âge, eh bien, c'est comme un père qui accompagne ses petits à la porte de l'avion. Eh ben voilà, je sautais avec eux, rien de compliqué. Et puis toujours favorisé à la Légion quand ils vous adoptent. Ils ont vu que je n'avais pas peur de sauter en parachute, que j'accompagnais les jeunes légionnaires. Donc j'avais toujours ma place dans l'avion, ce qui est un peu extraordinaire, voilà. Donc
oui.
Ça m'a permis d'être en contact avec des jeunes toujours très rapidement, du fait d'être là quand ils passaient leur brevet. Le premier acte important de jeunes légionnaires ou de jeunes parachutistes.
Oui. Vous racontez ce signe donné par le ciel qui confirme votre vocation. On comprend en parcourant votre vie qu'il était nécessaire finalement que vous deveniez prêtre pour toutes ces mains tendues, ces heures d'écoute et de soutien, ces accompagnements à la mort. J'imagine que vous rendez grâce d'avoir réalisé le dessein pour lequel vous avez été appelé.
Oui, oui, j'ai réalisé ce dessin, mais je pense que c'est la providence qu'il a voulu, dans la mesure où, quand on est ordonné prêtre, on fait trois vœux, célibat, chasteté et obéissance. Donc, il faut obéir à l'évêque, à l'Église. Moi, je n'ai pas demandé d'aller dans les chasseurs alpins. Par bonheur, je savais faire du ski grâce à notre père qui était très sportif, donc qui nous guidait toujours pendant nos vacances de faire des stages avec l'armée pour nous perfectionner sur le plan physique. Voilà, donc j'étais très à l'aise, mais aussi dans les parachutistes, parce que là encore, à l'exemple de mon frère aîné qui est mort en Algérie, qui a été tué, avec son caporal radio, eh bien, nous avons tous fait du parachutisme sportif à l'instruction. Mmh. Donc, moi, j'ai beaucoup sauté quand je n'étais même pas militaire ni prêtre,
hein, oui.
Rien que par l'entraînement, parce que nous étions poussés par notre père à faire ces stages pour être capable, sans même avoir la vocation à ce moment-là très nette de mon avenir comme prêtre, mais au moins j'avais une stature physique qui me permettait de suivre mes unités.
Oui.
Voilà.
Alors vos hommes, vous les comprenez, car vous aussi, vous avez combattu. Nous avons parlé de l'Algérie où les batailles furent rudes. Elles vous ont sans doute, évidemment, préparé pour la suite. Vos tripes, si vous me permettez l'expression, savent ce que vos hommes vivent. Et vous êtes sans doute frère d'armes avant d'être le padré aux yeux de certains, non?
Ben maintenant, oui. Quand j'étais en Algérie, j'étais chef de section. J'avais une responsabilité de quelques 30 hommes,
oui.
au combat. Donc, j'avais une certaine expérience qui m'a permis après de mieux œuvrer dans ce milieu militaire où je voyais en chaque soldat et mes harkis.
Oui.
Puisque nos sections étaient moitié d'Européens et moitié de harkis. Voilà. Et pour moi, ce mélange, eh bien, ça marchait très bien parce que on marchait effectivement beaucoup de jour et de nuit.
Oui.
Voilà. Puisque nous étions un commando de chasse, donc nous étions faits pour être toujours sur le terrain et essayer de débusquer cet ennemi pour les empêcher, bien, de tuer nos jeunes soldats qui venaient défendre, qui venaient servir la France, qui venaient donner de leur temps pour que la France reste la France éternelle. La France qui a été construite par tous nos aînés et puis par nos grands-parents à cette époque de grande guerre qu'ils ont connue eux aussi et de nos parents.
Nous allons faire une petite pause, mon père, et nous reprenons dans quelques secondes.
Entendu, entendu.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, un nom qui résonne encore dans la tête de nombreux auditeurs, Colvézi. Nous sommes le 19 mai 1978. De nouveau, vous allez partir au front. Pouvez-vous nous raconter cela avec les yeux du prêtre, s'il vous plaît?
Je marchais avec un autre groupe de légionnaires à l'autre bout de la Corse quand j'ai été rappelé d'une manière urgente par le 2e régiment étranger de parachutistes de Calvi. J'étais là-bas depuis 3 ans, donc ils me connaissaient, et le chef de corps nouveau, enfin ça faisait déjà 2 ans qu'il était chef de corps du 2e REP, il avait été...
Janou Lacaze
dans... Non, ce n'était pas Janou Lacaze, c'était le colonel Hérulin.
Ah oui, Hérulin, qui a dû mourir un peu plus tard. Oui.
Depuis 2 ans, il commandait ce régiment, pratiquement 2 années. Et quand je l'ai vu arriver, moi je savais qu'il avait été dans le régiment de parachutistes où mon frère... a été tué en Algérie. Donc, si vous voulez, entre nous, il y avait déjà une certaine connivence d'amitié, de savoir-faire, d'aimer la France, d'aimer notre armée, de servir. Vous voyez, tous ces mots-là résonnaient toujours entre nous et il m'invitait de temps à autre pour partager aussi avec la famille, hein, parce qu'il y avait des jeunes, voilà. Donc, nous étions très, je dirais, ami, tout en étant respectueux, parce qu'il était le chef de corps. Et moi, j'aimais bien quand il me disait « Vous avez une voiture, votre coffre est plein. Dès qu'il y a un légionnaire qui a un accident, qui se casse en parachute ou autre, et qu'il est hospitalisé, vous êtes le premier à aller le visiter » et à lui apporter tout le nécessaire dont il a besoin pour mieux guérir. Votre présence, c'est aussi la présence du chef de corps et du régiment pour montrer qu'on ne l'oublie pas dans son hôpital et qu'on a besoin de lui, donc qu'il guérisse très vite.
Oui.
Vous voyez ce souci du chef de corps de ce jeune légionnaire qui vient d'avoir un accident, qui est hospitalisé. Et moi, ça correspondait tout à fait à mon désir et de travailler ensemble avec de tels hommes.
Alors, vous allez sauter vous aussi sur Colvézi?
On m'a rappelé en urgence, oui. Je ne savais pas pourquoi, et en arrivant, on m'a dit « allez voir le médecin-chef ». Le médecin-chef me dit « sans doute que nous allons avoir une opération aéroportée, donc le chef de corps demande que vous soyez brancardier ». Voilà votre musette, elle est déjà pleine, elle est bien remplie. Trouvez une petite place pour amener vos affaires religieuses de messe. Et puis, dès que vous entendez la sirène, rendez-vous à l'ambulance. Et est-ce que vous prenez une arme? Moi, j'ai dit non, moi je ne prends pas d'arme, je fais confiance au ciel et à mes légionnaires. Je les connais. Donc, je ne prends pas d'armes. Et le chef de corps a donc tenu à ce que je fasse partie des 700 hommes qui ont sauté deux jours après, le lendemain et deux jours après, sur Kolwezi, pour arrêter les massacres. Oui. Et à Solenzera, la base aérienne, quand nous sommes arrivés, le général Lacaze a réuni tout son régiment pour dire « Voilà votre mission, c'est Kolwezi, le Zaïr, il y a des massacres, il y a un lieutenant et cinq sous-officiers spécialistes dans les blindés. Ils étaient là pour instruire les soldats zaïrois et ils ont été enlevés. Il faut les récupérer, les retrouver. Et puis, il faut récupérer tous ceux et celles qui sont pris en otage et ensuite reprendre les points essentiels de la ville de Kolwezi. Il y a 100 000 habitants dans cette ville, donc il faut absolument arrêter les massacres et que l'économie reprenne son activité parce qu'il y a grand besoin, bien sûr, pour ces pays d'Afrique que l'économie reparte.
Et l'opération fut réussie, mais il y eut quand même quelques morts.
Alors, il y a eu 5 tués, et le premier, il venait de sauter en parachute, il cherchait son arme, parce qu'il était tireur d'élite, il a été pris dans une embuscade dans les hautes herbes,
et il a été massacré.
Le chef de corps, en faisant le bilan le soir, a vu qu'il y avait un légionnaire qui manquait, un caporal, et on a retrouvé le lendemain une section qui patrouillait, a vu 2 pieds blancs qui dépassaient d'une terre qui venait d'être labourée. Et on a gratté, on a retrouvé le corps de notre camarade. Il avait pris des coups de masse sur la tête, son dos était plein de coups de couteau, de hache, de machette. Bon, c'est dur à... Voilà, c'était notre premier tué. Et au cours du deuxième largage, le lendemain, un sergent-chef, en faisant une reconnaissance, a été pris lui aussi dans une embuscade. On a essayé de le récupérer avec une compagnie qui est montée à l'assaut. Mais quand on l'a retrouvé, il venait d'être tué.
Oui.
Voilà. Et ensuite, il y a eu un caporal-chef dans la nuit. Et ensuite, dans la banlieue de Kolwezi, à la fin de la première semaine et demie, on a 2 autres tués, alors que nous venions être avec eux sur le terrain. L'ennemi a même tiré sur notre ambulance. Avec le médecin, on s'est vite mis à l'abri derrière les pneus, comme on pouvait, et on a pu récupérer nos 2 jeunes qui venait d'être tué. 5 tués, mais la ville de Kolwezi était pleine de cadavres partout, une odeur de mort dans toute la ville, c'était vraiment abominable. Et moi-même, j'ai atterri sur le cadavre d'un jeune noir qui venait d'être tué, certainement. Voilà, donc une vision extrêmement difficile.
Oui, bien sûr.
Mais la mission avec les légionnaires, c'était d'aller très vite pour récupérer nos otages, pour arrêter les massacres et que enfin les familles reprennent espoir et courage. C'est la France qui est présente. Eh bien, vous pouvez ressortir, reprendre une vie normale. Faites confiance à la France qui ne vous oublie pas.
Oui. Alors, le temps passe très, très vite. Nous laisserons nos auditeurs découvrir d'autres moments de votre vie, notamment quand vous étiez pendant 10 années au Tchad. Mais j'aimerais quand même, avant de parler Cameroun, si vous pouviez, en 2 minutes, répondre à ma question. Le Drakkar, un autre moment terrible. Vous avez été le secours moral de vos hommes, vos gamins, comme vous les appelez, qui étaient sous les décombres. Là, vous avez été vraiment le padré au sens du père aussi. Et j'imagine que les événements qui se déroulent actuellement doivent vous bouleverser parce que ce Liban que la France aime tant souffre encore et encore.
Ce Liban, nous l'aimons. parce que c'est la France qui l'a enfanté au moment que ce pays est devenu une république. Il a pu voler seul. Et puis c'est un pays où les chrétiens sont partout présents. Ils tiennent toutes les écoles. Si les écoles marchent en ce moment encore, c'est parce que les religieux, les religieuses sont là pour continuer leur mission qui est d'enseigner ces populations et pour empêcher qu'ils repartent dans tous les pays du monde, parce que le Liban a besoin de sa population qui est chrétienne, qui est arménienne, qui est musulmane, etc.
Oui.
Voilà. Le Liban, c'est une diversité, mais qui apprend, qui vivait autrefois dans l'harmonie, et travaillait ensemble les uns et les autres. L'armée libanaise est composée d'ailleurs de tous ces soldats de différentes religions.
Oui.
C'est le Liban, voilà.
Alors, oui, mon père, en fait, je suis désolée, il nous manque du temps, mais je voudrais que vous parliez, s'il vous plaît, mon père, de ce 30 avril à Aubagne, entouré de trois fidèles très proches. Vous allez vivre quelque chose d'exceptionnel. Est-ce que vous pouvez partager cela avec nous, s'il vous plaît?
Oui, c'est toujours difficile, en si peu de mots, parce que chaque année, il y a cette fête de Cameroun où le légionnaire, dans n'importe quel point du monde, se souvient de Cameroun.
Oui.
Cameroun, c'est la fête, mais c'est aussi le serment que fait tout jeune légionnaire à la Légion. Il promet d'être fidèle à la parole qu'il a donnée à la Légion au service de la France qu'il a accueillie, qu'il a instruite, qui lui donne un avenir sérieux. Voilà. Et non seulement le serment, mais c'est le rappel qu'une parole donnée doit conduire le légionnaire jusqu'à l'accomplissement total de sa mission, même si un jour il lui faut peut-être verser son sang.
Oui.
Donc ce sont des valeurs extraordinaires qui forment le légionnaire. Mais il en reste ensuite, c'est son bien qu'il garde au fond de lui-même, qui lui servira tout au cours de sa vie. Il ne peut pas passer un minimum de 5 ans à la Légion sans se souvenir du sacrifice des 5 légionnaires qui sont restés vivants dans cette hacienda au Mexique, à se défendre les uns et les autres, à défendre la France, à aller jusqu'au bout, parce qu'ils l'ont promis, parce que c'est la mission qui est sacrée.
Alors, lors de cette fête, de cette commémoration tous les ans, une personne porte la main du capitaine d'Anjou qui est sorti de la crypte qui se trouve à Aubagne.
Tout à fait.
Et vous avez eu cet honneur de porter la main du capitaine d'Anjou.
Mais j'ai été très surpris, parce que le thème de cette année, c'était Monsieur Légionnaire.
Oui.
Mais moi, j'ai jamais signé un contrat avec la Légion. J'étais au service des légionnaires de la Légion étrangère, là où étaient les légionnaires vers lesquels on m'envoyait. Et pourtant, j'ai été choisi parce que le commandement savait très bien que j'avais accompagné les légionnaires sur le plan opérationnel avec Colvézi. Je suis le seul aumônier qui a fait une opération aéroportée avec saut en parachute sur l'ennemi depuis l'Algérie.
Oui.
C'est la seule opération. Donc je reste, si vous voulez, quelqu'un qui est un peu reconnu à cause de ce saut opérationnel. Mais aussi, j'ai été auprès des jeunes légionnaires quand ils s'engageaient. J'ai un éventail des situations de légionnaires parce que j'ai eu la chance d'aller dans divers endroits de la Légion étrangère depuis son départ quand il arrive pour s'engager à la Légion, jusqu'à ses adieux qu'il fait en disant au revoir à ce monument aux morts qui lui rappellera, eh bien, Cameroun et tout ce que la Légion a pu faire dans le monde au service de la paix, au service de la liberté des peuples, car bien souvent, les peuples appellent la France au secours et la France envoie ses meilleurs soldats à travers le monde pour essayer de redonner de la vie, la vraie vie, à toutes ces populations dans la souffrance.
Eh bien, écoutez, mon père, quelle belle fin d'émission. Je vous remercie pour cette très belle émission. Je vous remercie pour votre livre, dont je rappelle le titre « Padré, mémoire d'un aumônier militaire », que vous avez écrit, mon père, donc le père Yannick Lallemand, avec Frédéric Ponce aux éditions Taillandier. Merci beaucoup, mon père. Et puis, alors, je sais que vous continuez à accompagner les légionnaires. Et ils doivent en être très heureux. Merci beaucoup. Au revoir, mon père.
Mes hommages, madame. Au revoir.
Au revoir,
merci.
Mon père. Merci.